Chapitre 19, Jupiter et l'Olympe. Maintenant, avec la permission de nos lecteurs, quittons un instant le Châtelet pour revenir à l'hôtel de Nesle. Au cri de Benvenuto, ses ouvriers étaient accourus et l'avaient suivi à la fonderie. Tout était prêt, le modèle en cire, revêtu de sa chape de terre, attendait, tout cerclé de fer, et dans le fourneau à capsule qui l'entourait, l'heure de la vie. Le bois lui-même était tout disposé. Benvenuto en approcha la flamme à quatre endroits différents, et comme le bois était du sapin que l'artiste prenait depuis longtemps soin de faire sécher, le feu gagna rapidement toutes les parties du fourneau, et le moule se trouva bientôt formé le centre d'un immense foyer. Alors la cire commença à sortir par les évents, tandis que de son côté le moule cuisait. En même temps, les ouvriers creusaient une grande fosse près du fourneau, où le métal devait entrer en fusion, car Benvenuto ne voulait pas qu'il y eût un instant perdu, et aussitôt le moule cuit, il voulait procéder à la fonte. Pendant un jour et demi, la cire découla du moule. Pendant un jour et demi, tandis que les ouvriers se relevaient tour à tour, se reposant par quart comme les matelots d'un bâtiment de guerre, Benvenuto veilla, tournant autour du fourneau, alimentant le foyer, encourageant les travailleurs. Enfin, il reconnut que toute la cire était coulée et que le moule était parfaitement cuit. C'était la seconde partie de son œuvre, la dernière était la fonte du bronze et le coulage de la statue. Lorsqu'on en fut là, les ouvriers, qui ne comprenaient rien à cette force surhumaine et à cette furieuse ardeur, voulurent obtenir de Benvenuto qu'il prît quelques heures de repos. Mais c'était quelques heures ajoutées à la captivité d'Ascanio et aux persécutions de Colombe, et Benvenuto refusa. Il semblait du même métal que ce bronze dont il allait faire un dieu. Alors, la fosse creusée, il entoura le moule d'excellents cordages, à l'aide de cabestans préparés à cet effet, il enleva avec tout le soin possible, le transporta au-dessus de la fosse, il y descendit lentement, jusqu'à ce qu'il fût à la hauteur du fourneau. Arrivé là, il le consolida en faisant rouler tout autour de lui la terre extraite de la fosse, en la foulant par couches et en plaçant, à mesure qu'elle s'élevait, des tuyaux de terre cuite destinés à servir d'évent. Tous ces préparatifs prirent le reste de la journée. La nuit vint. Il y avait 48 heures que Benvenuto n'avait dormi, ne s'était couché, ne s'était assis. Les ouvriers le suppliaient, et Scotson le grondait, mais Benvenuto ne voulait entendre à rien. Une force magique semblait le soutenir, et il ne répondait aux supplications et aux gronderies qu'en commandant à chaque ouvrier la besogne qu'il avait à faire, avec la voix brève et dure dont un général d'armée commande la manœuvre de ses soldats. Benvenuto voulait commencer la fonte à l'instant même. L'énergique artiste, qui avait constamment vu tous les obstacles céder devant lui, essayait alors sa puissance impérative sur lui-même. Écrasé de fatigue, dévoré de soucis, brûlé de fièvre, il commandait à son corps d'agir, et ce corps de fer obéissait, tandis que ses compagnons étaient forcés de se retirer l'un après l'autre, comme dans une bataille, on voit des soldats blessés quitter leur rang et regagner l'ambulance. Le fourneau de fonte était prêt. Benvenuto l'avait fait remplir de lingots de fonte et de cuivre, placés symétriquement les uns sur les autres, afin que la chaleur pût se faire jour entre eux et que la fusion s'opérât plus rapidement et plus complètement. Il y mit le feu comme à la première fournaise, et bientôt, comme le bûcher était composé de sapin, la résine qui en découlait, jointe à la combustibilité du bois, fit une flamme telle que, s'élevant plus haut qu'on ne s'y attendait, elle alla lécher le toit de la fonderie, qui, n'étant qu'un toit de bois, prit feu aussitôt. À la vue, et surtout à la chaleur de cet incendie, tous les compagnons, à l'exception d'Hermann, s'éloignèrent, mais Hermann et Benvenuto étaient assez pour faire face à tout. Chacun d'eux prit une hache et se mit à abattre les piliers de bois qui soutenaient le hangar. Un instant après, le toit tout enflammé tomba. Avec des crocs, Benvenuto et Hermann poussèrent les débris brûlants dans la fournaise, et l'ardeur du foyer s'en augmentant, le métal commença à fondre. Mais arrivé à ce point, Benvenuto Cellini se trouva à bout de force. Il y avait près de 60 heures qu'il n'avait dormi, et il y en avait 24 qu'il n'avait mangé, et depuis ce temps où il était l'âme de tout ce mouvement, l'axe de toute cette fatigue. Une fièvre terrible s'empara de lui. À la coloration de son teint succéda une pâleur mortelle. Dans une atmosphère tellement ardente que personne n'y pouvait demeurer près de lui, il sentait ses membres trembler et ses dents battre comme s'il se fût trouvé au milieu des neiges de Laponie. Les compagnons s'aperçurent de son état, s'approchèrent de lui. Il voulut résister encore, nier sa défaite, car pour cet homme, céder, même devant l'impossible, était une honte. Mais enfin, il fallut avouer qu'il se sentait défaillir. Heureusement, la fusion arrivait à son terme, le plus difficile était fait. Le reste était une œuvre de mécanique facile à exécuter. Il appela Pagolo, Pagolo n'était point là. Cependant, au cri des compagnons qui répétaient son nom en chœur, Pagolo reparut. Il venait, disait-il, de prier pour l'heureuse issue de la fonte. « Ce n'est pas le temps de prier !» s'écria Benvenuto. Et le Seigneur a dit, « Qui travaille, prie. C'est l'heure de travailler, Pagolo. Écoute, je sens que je me meurs, mais que je me meure ou non, il ne faut pas moins que mon Jupiter vive. Pagolo, mon ami, c'est à toi que j'abandonne la direction du moulage. Certain que, si tu le veux, tu feras tout aussi bien que moi. Pagolo, tu comprends bien, le métal sera bientôt prêt. Tu ne peux te tromper à son degré de cuisson. Lorsqu'il sera rouge, tu feras prendre un pierrier à Hermann et un autre à Simon le Gaucher. » Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je dis donc, oui. Puis ils frapperont un coup sur les deux tampons des fourneaux, alors le métal coulera, et si je suis mort, vous direz au roi qu'il a promis une grâce et que vous venez la réclamer en mon nom, et que cette grâce, c'est... Ah, mon Dieu, je ne me souviens plus. Que voulais-je demander au roi? Ah oui, Ascanio, seigneur de Nesle, Colombe, la fille du prévôt, Dorbec, madame d'Étampes, ah, je deviens fou! Et Benvenuto, chancelant, tomba dans les bras d'Hermann, qui l'emporta comme un enfant dans sa chambre, tandis que Pagolo, chargé de la direction du moulage, donnait des ordres pour que l'œuvre se continuât. Benvenuto avait raison, ou plutôt un délire terrible s'était emparé de lui, et Scozzone, qui sans doute de son côté priait aussi, comme Pagolo, accourut pour lui porter secours. Mais Benvenuto ne cessait de crier « Je suis mort, je vais mourir, Ascanio, Ascanio, que deviendra Ascanio ?» C'est qu'en effet mille visions délirantes passaient dans sa tête. Ascanio, Colombe, Stefana, tout cela grandissait à ses yeux comme des spectres, s'évanouissait comme des ombres. Puis, au milieu de tout cela, passait tout sanglant Pompeo, l'orfèvre, qui avait tué d'un coup de poignard, et le maître de poste de Sienne, qui avait tué d'un coup d'arquebuse. Passé et présent se confondaient dans sa tête. Tantôt c'était Clément VII qui retenait Ascanio en prison, tantôt c'était Côme Ier qui voulait forcer Colombe à épouser Dorbec, puis il s'adressait à la duchesse Éléonore, croyant s'adresser à madame d'Étampes, il suppliait, il menaçait, puis il riait au nez de la pauvre Scozzone et pleurante, il lui disait de prendre garde que Pagolo ne se rompît le cou en courant sur les corniches comme un chat. Puis, à ces moments d'agitation insensée, succédaient des intervalles de prostration complète pendant lesquels on eût dit qu'il allait mourir. Cette agonie durait depuis 3 heures. Benvenuto était dans un de ces moments de torpeur que nous avons dit quand, tout à coup, Pagolo entra dans sa chambre, pâle, défait, et s'écriant « Ah, que Jésus et la Madone nous aident, maître, car tout est perdu maintenant, et il ne peut plus nous arriver secours que du ciel !» Tout écrasé, tout mourant, tout évanoui, qu'était Benvenuto, ces mots, comme un stylet aigu, pénétrèrent jusqu'au plus profond de son cœur. Le voile qui couvrait son intelligence se déchira, et comme Lazare se levant à la voix du Christ, il se souleva sur son lit en criant « Qui a dit ici que tout était perdu tant que Benvenuto vivait encore ?»« Hélas, moi, maître, moi !» dit Pagolo. « Double infâme !» s'écria Benvenuto. « Il était donc dit que tu me trahiras sans cesse. Mais sois tranquille, Jésus et la Madone que tu invoquais tout à l'heure sont là pour soutenir les hommes de bonne volonté et pour punir les traîtres. » En ce moment, on entendit les ouvriers qui se lamentaient en criant « Benvenuto ! Benvenuto ! » !»« Ah, le voilà !» répondit l'artiste en s'élançant hors de sa chambre, pâle mais plein de force et de raison. « Le voilà, et malheur à ceux qui n'auront pas fait leur devoir !» En deux bonds, Benvenuto fut à la fonderie. Il trouva tout ce monde d'ouvriers qu'il avait laissé si plein d'ardeur, stupéfait et abattu. Hermann lui-même semblait mourant de fatigue. Le colosse chancelait sur ses jambes et était forcé de s'appuyer à l'un des piliers du hangar resté debout. Chéligny s'approcha du fourneau pour juger lui-même de l'événement. Le bois avait manqué et le métal s'était refroidi, de sorte qu'il était, comme on dit en termes de métier, tourné en gâteau. Benvenuto jugea aussitôt que tout était réparable. Sans doute Pagolo avait relâché sa surveillance, et pendant ce temps la chaleur du foyer avait diminué. Il fallait rendre à la flamme toute sa chaleur, il fallait rendre au métal toute sa liquéfaction. « Du bois !» s'écria Benvenuto. « Du bois ! Cherchez-en partout, où il peut y en avoir. Courez chez les boulangers, et payez-le s'il le faut à la livre. Apportez jusqu'au dernier copeau qui se trouve dans la maison. Enfonce les portes du petit Nel, Hermann, si Dame Perrine ne veut pas te les ouvrir. Tout est bonne prise de ce côté, nous sommes en pays ennemi. Du bois, du bois !» Et pour donner l'exemple le premier, Benvenuto saisit une hache et attaqua à grands coups les deux poteaux qui restaient encore debout et qui bientôt s'abattirent avec le reste de la toiture, que Benvenuto poussa aussitôt dans le foyer. En même temps, tous les compagnons revinrent de tous côtés, chargés de bois. « Ah ça, maintenant !» s'écria Benvenuto. « Êtes-vous disposé à obéir ?»« Oui, oui !» crièrent toutes les voix. « Oui, dans tout ce que vous nous ordonnerez, et tant qu'il nous restera un souffle de vie !» « Alors, triez le chêne, et ne jetez d'abord que du chêne dans le foyer. Le chêne fait un feu plus vif, et par conséquent, le remède sera plus prompt. » Aussitôt, le chêne plut par brasser dans la fournaise, et ce fut Benvenuto qui fut forcé de crier assez. L'énergie de cette âme avait passé dans toutes les âmes. Ses ordres, ses gestes, tout était compris et exécuté à l'instant même. Il n'y avait que Pagolo qui, de temps en temps, murmurait entre ses dents « Vous voulez faire des choses impossibles, maître, et c'est tenter Dieu. » Ce à quoi Cellini répondait par un regard qui voulait dire « Sois tranquille, tout n'est pas fini entre nous. » Cependant, malgré les prédictions sinistres de Pagolo, le métal commençait à entrer de nouveau en fusion, et pour hâter cette fusion, Benvenuto jetait de temps en temps dans le fourneau quelques livres de plomb, remuant plomb, cuivre et bronze, avec une longue barre de fer. De sorte que, pour me servir de ses expressions à lui-même, ce cadavre de métal commençait à revenir à la vie. À la vue de ce progrès, Benvenuto, joyeux, ne sentait plus ni fièvre ni faiblesse, lui aussi ressuscité. En effet, on vit le métal bouillir et monter. Aussitôt, Benvenuto ouvrit l'orifice du moule et ordonna de frapper sur les tampons du fourneau, ce qui fut exécuté à l'instant même. Mais comme si, jusqu'au bout, cette œuvre gigantesque devait être un combat de titans, les tampons ôtés, Benvenuto s'aperçut non seulement que le métal ne coulait pas avec une rapidité suffisante, mais encore qu'il n'y en aurait peut-être point assez. Alors frappé d'une de ces idées suprêmes, comme il en vient aux artistes seuls, « Que la moitié de vous, dit-il, reste ici pour jeter du bois dans le foyer et que l'autre me suive. » Et suivi de cinq compagnons, il s'élança vers l'hôtel de Nel. Puis, un instant après, tous reparurent, chargés de la vaisselle d'argent et d'étain, de lingots, des cuillères à moitié terminées. Benvenuto donna l'exemple, et chacun jeta son précieux fardeau dans le fourneau, qui dévora tout à l'instant même, bronze, plomb, argent, saumon brut, ciselure merveilleuse, avec la même indifférence qu'il eût dévoré l'artiste lui-même, si l'artiste à son tour s'y fût précipité. Mais, grâce à ce surcroît de matière fusible, le bronze devint parfaitement liquide, et comme s'il se fût repenti de son hésitation d'un instant, se mit à couler à plein canot. Il y eut alors un moment d'anxieuse attente, qui devint presque de la terreur quand Benvenuto s'aperçut que tout le bronze écoulé n'arrivait pas jusqu'à l'orifice du moule. Il sonda alors avec une longue perche, mais il sentit que, sans arriver au bout du jet, le bronze avait dépassé la tête de Jupiter. Alors il tomba à genoux et remercia Dieu. L'œuvre était terminée qui devait sauver Ascanio et Colombe. Maintenant, Dieu permettrait-il qu'elle fût accomplie parfaitement? C'est ce que Benvenuto ne pouvait savoir que le lendemain. La nuit, comme on le pense bien, fut une nuit d'angoisse, et si fatigué que fut Benvenuto, à peine s'il eut quelques instants de sommeil. Le jour vint, et avec le jour, Benvenuto secoua tous les restes du sommeil. En un instant, il fut debout et habillé. Une seconde après, il était à la fonderie. Le bronze était encore évidemment plus chaud qu'il ne convenait pour le mettre à l'air, mais Benvenuto était si pressé de voir ce qu'il y avait désormais à craindre ou à espérer qu'il n'y put tenir et qu'il commença à découvrir la tête. Lorsqu'il porta la main sur le moule, il était si pâle qu'on eût cru qu'il allait mourir. et il commença à découvrir doucement le haut de la statue. Par un hasard miraculeux, il y avait juste le métal nécessaire. Si Benvenuto n'avait pas eu l'idée de jeter dans le fourneau son argenterie, ses plats et ses aiguillères, la fonte manquait et la tête ne venait pas. Heureusement, la tête était venue et merveilleusement belle. Cette vue encouragea Benvenuto à découvrir successivement les autres parties du corps. Enfin, peu à peu, le moule tomba comme une écorce, et enfin le Jupiter, délivré des pieds à la tête de son entrave, apparut majestueux, comme il convenait au roi de l'Olympe. En aucune partie, le bronze n'avait fait défaut à l'artiste, et lorsque le dernier lambeau de glaise fut tombé, ce fut un cri d'admiration parmi tous les ouvriers, car ils étaient venus, successivement et en silence, se grouper devant Cellini, qui, trop occupé des pensées qu'une si heureuse réussite avait fait naître dans son esprit, ne s'était même pas aperçu de leur présence. Mais à ce cri qui le faisait Dieu à son tour, Benvenuto releva la tête, et, avec un sourire orgueilleux, « Ah, dit-il, nous verrons un peu si le roi de France osera refuser une dernière grâce que lui demandera l'homme qui a fait une pareille statue. » Puis, comme s'il se fût repenti de ce premier mouvement d'orgueil, qui était cependant tout entier dans sa nature, il tomba sur les genoux et, joignant les mains, il dit tout haut une action de grâce au Seigneur. Comme il achevait sa prière, Scotson accourut en disant à Benvenuto que Madame Jacques Aubry demandait à lui parler en secret, ayant une lettre de son mari qu'elle ne voulait remettre qu'à Benvenuto. Benvenuto fit redire deux fois le nom à Scotson, et car il ignorait que l'héritier fût en puissance de femme légitime. Il ne se rendit pas moins à l'invitation qui lui était faite, laissant tous ses compagnons orgueilleux et grandis de la gloire de leur maître. Cependant, en y regardant de plus près, Pagolo s'aperçut qu'il y avait une incorrection dans le talon du dieu, un accident quelconque ayant empêché la fonte de couler jusqu'au fond du moule. Le jour même où Benvenuto avait découvert sa statue, il avait fait dire à François Ier que son Jupiter était fondu, lui demandant quel jour il lui plaisait que le roi de l'Olympe parût aux yeux du roi de France. François Ier répondit à Benvenuto que son cousin l'empereur et lui, devant aller chasser le jeudi suivant à Fontainebleau, il n'avait qu'à faire pour ce jour transporter sa statue dans la grande galerie du château. La réponse était sèche. Il demeurait évident que Madame d'Étampes avait fortement prévenu le roi contre son artiste favori. On était arrivé au lundi. Benvenuto fit charger le Jupiter sur un chariot, et, montant à cheval, il l'accompagna lui-même, sans le quitter d'un instant, de peur qu'il ne lui arrivât malheur. Le jeudi, à 10 heures, l'œuvre et l'ouvrier étaient arrivés à Fontainebleau. À peine eut-il franchi le seuil de la galerie où son Jupiter devait être exposé, qu'il vit à l'instant même le coup, reconnut la main qu'il avait frappée, et resta un instant anéanti. Cette galerie, toute resplendissante des peintures du Rosso, déjà faite à elle seule pour distraire l'attention de quelque chef-d'œuvre que ce fût, avait été garnie pendant les 3 derniers jours qui venaient de s'écouler des statues envoyées de Rome par le primatis, c'est-à-dire que les merveilles de la statue antique, les types consacrés par l'admiration de 20 siècles, étaient là, défiant toute comparaison, écrasant toute rivalité. Ariane, Vénus, Hercule, Apollon, Jupiter lui-même, le grand Jupiter olympien, figures idéales, rêves du génie, éternité de bronze, formaient comme un concile surhumain dont il était impie de s'approcher, comme un tribunal sublime dont tout artiste devait redouter le jugement. Un Jupiter nouveau se glissant à côté de l'autre dans cet Olympe, Benvenuto jetant le gant à Phidias, il y avait là une sorte de profanation et de blasphème qui, tout confiant qu'il fût dans son propre mérite, fit reculer de 3 pas le religieux artiste. Ajoutez que les immortelles statues avaient pris, comme c'était leur droit, les plus belles places. Il ne restait donc pour le pauvre Jupiter de Cellini que les coins obscurs auxquels on n'arrivait qu'après avoir passé sous le regard fixe et imposant des anciens dieux. Benvenuto, triste, la tête inclinée, debout sur le seuil de la galerie, l'embrassait d'un regard à la fois triste et charmé. Messire Antoine le Maçon, dit-il au secrétaire du roi qui l'accompagnait, je veux, je dois remporter sur le champ mon Jupiter. Le disciple ne tentera pas de le disputer au maître. L'enfant n'essaiera pas de lutter contre les aïeux. Mon orgueil et ma modestie me le défendent. Benvenuto, répondit le secrétaire du roi, croyez-en un ami sincère. Si vous faites cela, vous vous perdez. Je vous le dis entre nous, on espère de vous ce découragement qui passera pour un aveu d'impuissance. J'aurai beau présenter vos excuses au roi, Sa Majesté, qui est impatiente de voir votre œuvre, ne pourra entendre à rien, et, poussée comme elle l'est par Madame d'Étampes, vous retirera sans retour toutes ses bonnes grâces. On s'y attend, et je crains. Ce n'est pas avec les morts, Benvenuto, c'est avec les vivants que votre lutte est engagée. Vous avez raison. Messire, répondit l'orfèvre, et je vous entends. Merci de m'avoir rappelé que je n'ai pas le droit d'avoir ici de l'amour-propre. À la bonne heure, Benvenuto, mais écoutez un dernier avis. Madame d'Étampes est trop charmante aujourd'hui pour n'avoir pas quelque perfidie en tête. Elle a entraîné l'empereur et le roi à une promenade dans la forêt avec un enjouement et une grâce irrésistibles. J'ai peur pour vous qu'elle ne trouve le secret de les y retenir jusqu'à la nuit. Le croyez-vous? S'écria Benvenuto en pâlissant. Mais alors, je serais perdu, car ma statue paraîtrait dans un faux jour qui lui ôterait la moitié de sa valeur. Espérons que je me suis trompé, reprit Antoine le Maçon, et attendons l'événement. Cellini commença à attendre, en effet, dans une anxiété pleine de frémissements. Il avait placé son Jupiter le moins mal possible, mais il ne se dissimulait pas qu'à la nuit tombante, la statue serait d'un effet médiocre et qu'à la nuit, elle paraîtrait tout à fait mauvaise. La haine de la duchesse avait calculé aussi juste que la science du sculpteur. Elle devinait en 1541 un procédé de la critique du XIXe siècle. Benvenuto regardait avec désespoir le soleil descendre sur l'horizon et interrogeait avidement tous les bruits du dehors. À part les gens du service, le château était désert. Et tout à coup, une idée du ciel lui vint. Il se leva, appela le petit géant qu'il avait amené avec lui et sortit précipitamment. Nul bruit annonçant le retour du roi ne se faisait entendre encore. Benvenuto courut chez un menuisier de la ville, et avec l'aide de cet homme et de ses ouvriers, il eut en moins d'une heure achevé un socle de bois de chêne peu apparent, garni de quatre petites boules qui tournaient sur elles-mêmes comme des roulettes. Il tremblait maintenant que la cour ne rentrât, mais à 5 heures son travail était terminé, la nuit tombait, et le château n'avait pas revu ses hôtes couronnés. Madame d'Étampes, quelque part qu'elle fût, devait triompher. Benvenuto eut bientôt fait de placer la statue avec le piédestal sur le socle presque invisible. Le Jupiter tenait dans sa main gauche le globe du monde, et dans sa droite, un peu élevé au-dessus de sa tête, la foudre qu'il semblait vouloir lancer. Au milieu des flammes de la foudre, l'orfèvre cacha une bougie. Il terminait à peine ses apprêts quand les fanfares sonnèrent, annonçant le retour du roi et de l'empereur. Benvenuto alluma la bougie, plaça le petit géant derrière la statue par laquelle il était entièrement masqué, et non sans un profond battement de cœur, il attendit le roi. 10 minutes après, les deux battants de la porte tournèrent, et François Ier parut, donnant la main à Charles Quint. Suivaient le dauphin, la dauphine, le roi de Navarre, et toute la cour enfin. Le prévôt, sa fille et d'Orbec venaient les derniers. Colombe était pâle et abattue, mais du moment qu'elle aperçut Cellini, elle releva la tête et un sourire plein de sublime confiance parut sur ses lèvres et éclaira son visage. Cellini échangea un regard qui voulait dire « Soyez tranquille, quelque chose qu'il arrive, ne désespérez pas, je veille sur vous. » Au moment où la porte s'ouvrit, le petit géant, sur un signe de son maître, imprima une légère impulsion à la statue qui roula doucement sur son socle mobile et, laissant les antiques en arrière, vint pour ainsi dire au devant du roi, mobile et comme animé. Tous les yeux se portèrent sur le champ de son côté. La douce lueur de la bougie, tombant de haut en bas, produisait un effet beaucoup plus agréable que le jour. Madame d'Étampes se mordit les lèvres. « Il semble, sire, dit-elle, que la flatterie est un peu forte et que c'est au roi de la terre à aller au-devant du roi du ciel. » Le roi sourit, mais on vit que cette flatterie ne lui déplaisait pas. Selon son habitude, il oublia l'ouvrier pour l'œuvre, et, épargnant la moitié du chemin à la statue, il marcha droit à elle et l'examina longtemps en silence. Charles-Quint, qui de sa nature, et quoiqu'il eût un jour, dans un moment de bonne humeur, ramassé le pinceau du Titien, Charles-Quint, disons-le, qui était plus profond politique que grand artiste, et les courtisans, qui n'avaient pas le droit d'avoir une opinion, attendaient scrupuleusement l'avis de François Ier pour se prononcer. Il y eut un moment d'anxieux silence pendant lequel Benvenuto et la duchesse échangèrent un regard de haine profonde. Tout à coup, le roi s'écria « C'est beau, c'est très beau, et j'avoue que mon attente est dépassée !» Tous alors se répandirent en compliments et en éloges, et l'empereur tout le premier. « Si l'on gagnait les artistes comme les villes, dit-il au roi, je vous déclarerai à l'instant même la guerre pour conquérir celui-ci, mon cousin. » « Mais avec tout cela, interrompit Madame d'Étampes furieuse, nous ne voyons seulement pas ces belles statues antiques qui sont plus loin. Elles valent peut-être un peu mieux pourtant que tous nos colifichets modernes. » Le roi s'approcha alors des statues antiques éclairées de bas en haut par la lueur des torches qui laissaient toutes leurs parties supérieures dans l'obscurité. Elles étaient certes d'un moins bel effet que le Jupiter. Phidias est sublime, dit le roi, mais il peut y avoir un Phidias au siècle de François Ier et de Charles Quint, comme il y en eut un au siècle de Périclès. Oh, il faudrait voir cela au jour, dit Anne avec amertume. Paraître n'est pas être, un artifice de lumière n'est pas l'art. Et qu'est-ce que ce voile, d'ailleurs, nous cacherait-il quelques défauts? Dites franchement, maître Cellini. C'était une draperie très légère jetée sur le Jupiter, pour lui donner plus de majesté. Benvenuto était resté jusque-là près de sa statue, immobile, silencieux et en apparence froid comme elle. Mais aux paroles de la duchesse, il sourit dédaigneusement, jeta de ses yeux noirs un double éclair, et avec la sainte audace d'un artiste païen, il arracha le voile d'une main vigoureuse. Benvenuto s'attendait à voir éclater la duchesse. Mais tout à coup, par une puissance incroyable de volonté, elle se mit à sourire avec une aménité terrible, et tendant gracieusement la main à Cellini, stupéfait de ce revirement. « Allons, j'avais tort, dit-elle, tout haut, d'un ton d'enfant gâté. Vous êtes un grand sculpteur, Cellini. Pardonnez-moi mes critiques, donnez-moi votre main, et soyons désormais amis, voulez-vous ? » Et puis elle ajouta tout bas et avec une volubilité extrême. « Songez à ce que vous allez demander, Cellini, que ce ne soit pas le mariage de Colombe et d'Ascanio, où, je vous le jure, Ascanio, Colombe et vous, vous êtes tous perdus. »« Et si je demande autre chose, dit Benvenuto du même ton, me seconderez-vous, madame ?»« Oui, fit-elle vivement, et je vous le jure, quelle que soit la chose que vous réclamerez, le roi l'accordera. » »« Je n'ai pas besoin de demander le mariage d'Ascanio et de Colombe, dit alors Benvenuto, car c'est vous « qui le demanderait, madame ?» La duchesse sourit dédaigneusement. « Que dites-vous donc ainsi tout bas ?» dit François Ier. « Madame la duchesse d'Étampes avait la bonté de me rappeler, répondit Benvenuto, que votre majesté m'avait promis une grâce dans le cas où elle serait satisfaite. »« Et cette promesse a été faite devant moi, sire, dit le connétable en s'avançant, devant moi et devant le chancelier Poyer. » Vous nous avez même chargé, mon collègue et moi, de vous rappeler. Oui, connétable, interrompit le roi d'un air de bonne humeur. Oui, si je ne me rappelais pas, mais je me rappelle à merveille, foi de gentilhomme. Ainsi, comme vous le voyez, votre intervention, tout en me demeurant agréable, me devient inutile. J'ai promis à Benvenuto de lui accorder ce qu'il me demanderait lorsque son Jupiter serait fondu. Est-ce cela, connétable? Ai-je bonne mémoire, chancelier? À vous de parler, maître Cellini, je suis à votre disposition, vous priant toutefois de penser moins à votre mérite qui est immense qu'à notre pouvoir qui est borné, ne faisant de réserve que pour notre couronne et notre maîtresse. Eh bien, sire, dit Cellini, puisque votre majesté est en si bonne disposition pour votre indigne serviteur, je lui demanderai purement et simplement la grâce d'un pauvre écolier qui s'est pris de querelle sur le quai de Châtelet avec le vicomte de Marmagne et qui, en se défendant, lui a passé son épée à travers le corps. » Chacun fut étonné de la médiocrité de la demande, et Madame d'Étampes la toute première. Elle regarda Benvenuto d'un air stupéfait et croyant avoir mal entendu. Eh bien, maître, dit François Ier, que ce que vous désirez soit donc fait. Et comme qui donne vite donne deux fois, dit le proverbe, que l'ordre de mettre ce jeune homme en liberté soit expédié ce soir même. Vous entendez, mon cher chancelier?
Oui, sire, et votre majesté sera obéie.
Quant à vous, maître Benvenuto, dit François Ier, venez me voir lundi au Louvre, et nous nous occuperons de certains détails qui, depuis quelque temps, ont été trop négligés par mon trésorier vis-à-vis de vous.
Mais, sire, votre majesté sait que l'entrée du Louvre...
c'est bien, la personne qui avait donné la consigne la lèvera. C'était une mesure de guerre, et comme vous n'avez plus autour de moi que des amis, tout sera rétabli sur le pied de paix.
Eh bien, sire, dit la duchesse, puisque votre majesté est en train d'accorder, accordez-moi aussi à moi une toute petite demande, quoique je n'aie pas fait de Jupiter.
Non, dit Benvenuto à demi-voix, mais vous avez fait souvent la Danaé.
Et quelle est cette demande? Interrompit François Ier, qui n'avait pas entendu l'épigramme de Cellini.
Parlez, madame la duchesse, et croyez que la solennité de l'occasion n'ajoutera rien au désir que j'ai de vous être agréable.
Eh bien, sire, votre majesté devrait bien faire à messire d'Estourville cette grâce de signer lundi prochain au contrat de mariage de ma jeune amie, mademoiselle d'Estourville, avec le comte d'Orbec.
« Ce n'est pas une grâce que je vous ferai là, répondit François Ier. C'est un plaisir que je me prépare à moi-même. Je resterai encore votre débiteur, je le jure. »«
Ainsi donc, sire, c'est convenu, à lundi ?» demanda la duchesse.
« Madame la duchesse, reprit Benvenuto à demi-voix, madame la duchesse, ne regrette-t-elle pas que, pour une pareille solennité, ce beau lys qu'elle avait commandé à Ascanio ne soit pas fini ?»
Sans doute, je le regretterai, dit la duchesse, mais c'est chose impossible, Ascanio est en prison.
Oui, mais je suis libre, moi, dit Benvenuto, je le finirai, et je le porterai à madame la duchesse.
Oh, sur mon honneur, si vous faites cela, je dirai...
Vous direz quoi, madame?
Je dirai que vous êtes un homme charmant.
Et elle tendit la main à Benvenuto, qui, de l'air le plus galant du monde, et après avoir, d'un coup d'œil, demandé la permission au roi, y déposa un baiser.
En ce moment, un léger cri se fit entendre.
« Qu'y a-t-il ? » demanda le roi.
« Sire, j'en demande pardon à votre majesté, dit le prévôt, mais c'est ma fille qui se trouve mal. »«
Pauvre enfant, murmura Benvenuto, elle croit que je l'ai trahi. »
Benvenuto voulut partir à l'instant même, mais le roi insista tellement qu'il ne put se dispenser de rester au château jusqu'au lendemain matin. Bien plus, au lieu de se rendre directement à l'hôtel de Nesle, il alla frapper à la porte d'un de ses amis, nommé Guido, médecin de Florence, puis, lorsqu'il se fut assuré que ce médecin était chez lui et pouvait lui donner à souper, il ordonna au petit Jehan de rentrer seul, de dire que le maître était resté à Fontainebleau et ne reviendrait que le lendemain, et de se tenir prêt à ouvrir quand il frapperait. Le petit Jehan partit aussitôt, en promettant à Cellini de se conformer à ses instructions. Le souper était servi, mais avant de se mettre à table, Cellini demanda à son hôte s'il ne connaissait pas quelque notaire honnête et habile qu'il pût faire venir pour lui dresser un contrat inattaquable. Celui-ci lui nomma son gendre, on l'envoya chercher aussitôt. Une demi-heure après, et comme on achevait de souper, il arriva. Benvenuto se leva aussitôt de table, s'enferma avec lui, et lui fit dresser un contrat de mariage dont les noms seuls étaient en blanc. Puis, lorsqu'ils eurent lu et relu ensemble le contrat, pour s'assurer qu'il ne renfermait aucune nullité, Benvenuto lui paya largement ses honoraires, mit le contrat dans sa poche, emprunta à son ami une seconde épée, juste de la longueur de la sienne, la mit sous son manteau, et, comme la nuit était tout à fait venue, il s'achemina vers l'hôtel de Nesle. En arrivant à la porte, il frappa un seul coup, mais si léger que fût ce coup, la porte s'ouvrit aussitôt, le petit Jehan était à son poste. Cellini l'interrogea, les ouvriers soupaient et n'attendaient le maître que le lendemain. Cellini ordonna à l'enfant de garder le silence le plus absolu sur son arrivée, s'achemina vers la chambre de Catherine, dont il avait conservé une clé, y entra doucement, referma la porte, et se cacha derrière une tapisserie et attendit. Un quart d'heure après, des pas légers se firent entendre sur l'escalier. La porte se rouvrit une seconde fois, et Scotson entra à son tour, une lampe à la main, puis elle retira la clé du dehors, referma la porte en dedans, posa la lampe sur la cheminée et vint s'asseoir sur un grand fauteuil, tourné de manière que Benvenuto pouvait voir son visage. Au grand étonnement de Benvenuto, ce visage autrefois si ouvert, si éclairé, si joyeux, était devenu triste et pensif. C'est que la pauvre Scotson y éprouvait quelque chose comme du remords. Au bout du compte, Pagolo était jeune. Pagolo, à part son air hypocrite, était joli garçon. Pagolo était amoureux et répétait sans cesse à Scotson et qu'il l'aimait, tandis que Benvenuto avait complètement cessé de le lui dire. Ces deux mots « je t'aime » sont la langue du cœur, et plus ou moins ardemment, il faut toujours que le cœur parle cette langue avec quelqu'un. Aussi, dans une heure de désœuvrement, de dépit, d'illusion peut-être, Scotson avait dit à Pagolo qu'elle l'aimait. Elle le lui avait dit sans l'aimer véritablement. Elle le lui avait dit l'image de Cellini au cœur et son nom sur les lèvres. C'était toutes ces pensées qui faisaient Scotson triste, qui la rendaient pensive, qui lui donnaient des remords. Cependant, au milieu de son silence et de sa rêverie, elle tressaillit tout à coup et releva la tête. Un léger bruit s'était fait entendre sur l'escalier, et presque aussitôt, une clé introduite dans la serrure tourna rapidement et la porte s'ouvrit. « Comment êtes-vous entré? Qui vous a donné cette clé, Pagolo ?» s'écria Scotson en se levant. « Il n'y a que deux clés de cette porte, l'une étant dedans et Cellini possède l'autre. » « Ah, ma chère Catherine, dit Pagolo en riant, vous avez des caprices. Tantôt vous ouvrez votre porte aux gens et tantôt vous la refermez. Puis, quand pour entrer ici on veut user de la force, dont au bout du compte vous avez fait un droit, vous menacez de crier, d'appeler au secours, eh bien alors il faut user de ruse. » « Tenez, Pagolo, dit Catherine, avec un accent de tristesse si profonde qu'elle pénétra jusqu'au fond du cœur de Cellini, « tenez, je sais bien que lorsqu'une fois une femme a cédé, elle n'a plus le droit de se démentir, mais si celui pour qui elle a eu cette faiblesse est un homme généreux, et si elle dit à cet homme qu'elle était de bonne foi, car elle avait perdu la raison, mais qu'elle s'est trompée, s'il est du devoir de cet homme, croyez-moi, de ne point abuser de ce moment d'erreur, eh bien je vous dis cela, Pagolo, je vous ai cédé, et cependant je ne vous aimais pas, j'en aimais un autre, j'aimais Cellini. » « Méprisez-moi, vous le pouvez, vous le devez même, mais tenez, Pagolo, ne me tourmentez plus. »« Bon, dit Pagolo, bon, vous arrangez cela à merveille, vous. Après le temps que vous m'avez fait attendre cette faveur que vous me reprochez, vous croyez que je vous rendrai un engagement qu'en définitive vous avez pris envers moi en parfaite liberté ? Non. » « Arrêtez, Pagolo, arrêtez !» s'écria Scotson, et la rougeur de la honte, de la jalousie et de la colère lui montant ensemble au front. « Benvenuto, c'est vrai, ne m'aime plus aujourd'hui, mais il m'a aimé autrefois, et il m'estime toujours. »« Eh bien, pourquoi ne vous a-t-il pas épousé, puisqu'il vous l'avait promis ?»« Promis ? Jamais, non, jamais Benvenuto n'a promis que je serais sa femme, car s'il eût promis, lui, il eût tenu. » « Ah bien, voyez comme vous êtes ingrat, Scotson !» s'écria Pagolo, saisissant la main de la jeune fille, et prenant pour un retour à lui ce qui n'était qu'un signe d'abattement. « Voyez, moi qui vous promets, moi qui vous offre tout ce que Benvenuto, de votre propre aveu, ne vous a jamais promis, ne vous a jamais offert, moi qui vous suis dévoué, qui vous aime, vous me repoussez, tandis que lui qui vous a trahi, je suis certain que s'il était là, vous lui répéteriez cet aveu que vous regrettez tant de m'avoir fait à moi qui vous aime. S'il était là, s'écria Scotson, et s'il était là, Pagolo, vous vous souviendriez que vous l'avez trahi par haine, tandis que moi, je l'ai trahi par amour, et vous rentreriez sous terre. Et pourquoi cela, dit Pagolo, que la distance où il croyait Benvenuto de lui rassurait. Pourquoi cela, s'il vous plaît? Tout homme n'a-t-il pas le droit de se faire aimer d'une femme, lorsque cette femme n'appartient pas à un autre? S'il était là, je lui dirais, vous avez abandonné, trahi Catherine, cette pauvre Catherine qui vous aimait tant. Elle en a été au désespoir d'abord, puis elle a trouvé sur son chemin un bon et brave garçon qui l'a apprécié à sa valeur, qui l'a aimé, qui lui a promis ce que vous n'aviez jamais voulu lui promettre, vous, c'est-à-dire de la prendre pour femme. C'est lui, maintenant, qui a hérité de vos droits. C'est à lui que cette femme appartient. Eh bien, voyons, Catherine, qu'aurait-il à répondre, ton Cellini ? Rien, dit derrière l'enthousiaste Pagolo une voix rude et mâle. Absolument rien. et une main vigoureuse lui tombant à l'instant même sur l'épaule, glaça tout à coup son éloquence et le jeta en arrière sur le sol, aussi pâle et aussi tremblant qu'il était téméraire l'instant auparavant. Le tableau était singulier. Pagolo à genoux, plié en deux, blême et effaré, Scotson est à demi soulevé sur les bras de son fauteuil, immobile, muette et pareil à la statue de l'étonnement. Enfin Benvenuto, debout, les bras croisés, une épée dans le fourreau d'une main, une épée nue dans l'autre, moitié ironique, moitié menaçant. Il y eut un instant de silence terrible. Pagolo et Scotson, et demeurant interdits, tous deux, sous le sourcil froncé du maître. « Trahison, murmura Pagolo, humilié, trahison. « Oui, trahison de ta part, misérable, répondit Cellini. « Eh bien, dit Scotson, et vous le demandiez, Pagolo, le voilà. « Oui, le voilà, dit l'apprenti, honteux d'être ainsi traité devant la femme à qui il voulait plaire. Mais il est armé, lui, je n'ai pas d'armes, moi. « Je t'en apporte une, dit Cellini, reculant d'un pas et laissant tomber l'épée qu'il tenait de la main gauche au pied de Pagolo. Pagolo regarda l'épée, mais sans faire un mouvement. « Voyons, dit Cellini, ramasse cette épée et relève-toi, j'attends. » « Un duel, murmura l'apprenti, dont les dents claquaient de terreur. « Suis-je de votre force pour me battre en duel avec vous ?»« Eh bien, dit Cellini, en passant son arme d'un bras à l'autre, je me battrai de la main gauche, et cela rétablira l'équilibre. « Me battre contre vous, mon bienfaiteur, contre vous à qui je dois tout ? Jamais, jamais !» s'écria Pagolo. Un sourire de profond mépris se dessina sous les traits de Benvenuto, tandis que Scotson s'éloignait d'un pas à son tour, sans essayer de cacher l'expression de dégoût qui lui montait au visage. « Il fallait te souvenir de mes bienfaits avant de m'enlever la femme que j'avais confiée à ton honneur et à celui d'Ascanio, » dit Benvenuto. « Maintenant, la mémoire te revient trop tard. En garde, Pagolo, en garde !»« Non, non, » murmura le lâche, en se reculant sur ses genoux. « Alors, puisque tu refuses de te battre comme un brave, dit Benvenuto, je vais te punir comme un coupable. » Et il remit son épée au fourreau, tira un poignard, et sans que son visage impassible fût altéré par un sentiment de colère ou de pitié, il s'avança d'un pas lent, mais direct, vers l'apprenti. Scotson se précipita entre eux avec un cri, mais Benvenuto, sans violence, avec un seul geste, un geste irrésistible, comme le serait celui d'une statue de bronze qui étendrait le bras, éloigna la pauvre fille qui alla retomber demi-morte sur le fauteuil. Benvenuto continua son chemin vers Pagolo, qui recula jusqu'à la muraille. Alors le maître le joignit, et lui appuyant le poignard sur la gorge, « Recommande ton âme à Dieu, dit-il, tu as 5 minutes à vivre. » « Grâce !» s'écria Pagolo d'une voix étranglée. « Ne me tuez pas ! Grâce ! Grâce !»« Quoi ? » dit Cellini. « Tu me connais, et me connaissant, tu as séduit la femme qui était à moi. Je sais tout, j'ai tout découvert, et tu espères que je te ferai grâce. Tu ris, Pagolo, tu ris !» Et Benvenuto lui-même éclata de rire à ces mots, mais d'un rire strident et terrible qui fit frissonner l'apprenti jusqu'à la moelle des os. « Maître, maître !» s'écria Pagolo, sentant la pointe du poignard qui commençait à lui piquer la gorge. « Ce n'est pas moi, c'est elle, oui, c'est elle qui m'a entraîné !»« Trahison, lâcheté et calomnie ! Je ferai un jour un groupe de ces 3 monstres, dit Benvenuto, et ce sera hideux à voir. « C'est elle qui t'a entraîné, misérable ? Oublies-tu donc que j'étais là et que j'ai tout entendu ?» « Oh, Benvenuto !» murmura Catherine en joignant les mains. « Oh, n'est-ce pas que vous savez qu'il ment en disant cela ?»« Oui, dit Benvenuto, oui, je sais qu'il ment en disant cela, comme il mentait en disant qu'il était prêt à t'épouser. Mais sois tranquille, il va être puni de ce double mensonge. « Oh, punissez-moi !» s'écria Pagolo, « mais miséricordieusement, punissez-moi, mais ne me tuez pas !»« Tu mentais quand tu disais qu'elle t'avait entraîné. » « Oui, je mentais, oui, c'est moi qui suis le coupable. Je l'aimais comme un fou, et vous savez, maître, à quel point les fautes peuvent entraîner l'amour. Tu mentais quand tu disais que tu étais prêt à l'épouser. Non, non, maître, cette fois je ne mentais pas. Tu aimes donc véritablement Scotson, et... Oh oui, je l'aime, répondit Pagolo, qui comprit que le seul moyen de paraître moins coupable aux yeux de Cellini, c'était de rejeter le crime sur la violence de sa passion. Oui, je l'aime. Et tu répètes que tu ne mentais pas quand tu proposais de l'épouser. Je ne mentais pas, maître. Tu en aurais fait ta femme? Si elle n'eût point été à vous, oui. Eh bien, alors prends-la, je te la donne. Que dites-vous? Vous raillez, n'est-ce pas? Non, je n'ai jamais parlé plus sérieusement, et regarde-moi si tu en doutes. Pagolo jeta à la dérobée un coup d'œil sur Cellini, et il vit dans chacun de ses traits que d'un moment à l'autre le juge pouvait faire place au bourreau. Il baissa donc la tête en gémissant. « Ôte cet anneau de ton doigt, Pagolo, dit-il, et passe-le au doigt de Catherine. » Pagolo suivit passivement la première partie de l'injonction faite par le maître. Benvenuto fit signe à Scozzone d'approcher. Scozzone approcha. « Étends la main, Scozzone, reprit Benvenuto. » Scozzone obéit. « Achève, dit Cellini. » Pagolo passa l'anneau au doigt de Scozzone. « Maintenant, dit Benvenuto, que les fiançailles sont terminées, passons au mariage. »« Au mariage, murmura Pagolo, on ne se marie pas comme cela, il faut des notaires, il faut un prêtre. »« Il faut un contrat, reprit Benvenuto, en tirant celui qu'il avait fait dresser. « En voilà un tout préparé, et auquel il n'y a que les noms à mettre. » Il posa le contrat sur la table, prit une plume, et l'étendant vers Pagolo. « Signe, Pagolo, dit-il, signe. » Je suis tombé dans un piège, murmura l'apprenti. Hein, qu'est-ce à dire? Reprit Benvenuto, sans hausser le diapason de sa voix, mais en lui donnant un accent terrible. Un piège? Et où y a-t-il un piège là-dedans? Est-ce moi qui t'ai poussé à venir dans la chambre de Scozzone? Est-ce moi qui t'ai donné le conseil de lui dire que tu en voulais faire ta femme? Eh bien, fais-en ta femme, Pagolo, et lorsque tu seras son mari, les rôles seront changés. Si je viens à elle, ce sera à toi de menacer, et à moi d'avoir peur. « Oh !» s'écria Catherine, en passant de l'extrême terreur à une gaieté folle, et en riant aux éclats à cette seule idée que le maître venait d'éveiller dans son esprit. « Oh, que ce serait drôle !» Pagolo, un peu remis de sa terreur par la tournure qu'avait prise la menace de Cellini et par les éclats de rire de Scozzone, commençait à envisager un peu plus sainement les choses. Il devint alors évident pour lui qu'on avait voulu l'amener par la peur à un mariage dont il se souciait médiocrement. Il lui parut donc que ce serait finir trop tragiquement la comédie, et il commença à croire qu'avec un peu de fermeté, il pourrait s'en tirer à meilleur marché, peut-être. « Oui, murmura-t-il, traduisant en paroles la gaieté de Scozzone, et oui, j'en conviens, ce serait très plaisant, mais par malheur cela ne sera pas. » « Comment cela ne sera pas ? » s'écria Benvenuto, aussi étonné que serait un lion de voir se révolter contre lui un renard. « Non, cela ne sera pas, reprit Pagolo, j'aime mieux mourir, tuez-moi. » À peine avait-il prononcé ces mots que d'un bond Cellini se retrouva près de lui. Pagolo vit briller le poignard, se jeta de côté, et cela avec tant de rapidité et de bonheur que le coup qui lui était destiné lui effleura seulement l'épaule, et que le fer, poussé par la main vigoureuse de l'orfèvre, s'enfonça de 2 pouces dans la boiserie. « J'y consens !» s'écria Pagolo. « Grâce, Cellini, j'y consens, je suis prêt à tout !» Et tandis que le maître arrachait avec peine le poignard, qui, au-delà de la boiserie, avait rencontré le mur, il courut à la table où était déposé le contrat, saisit vivement la plume et signa. Tout cela s'était passé de façon si rapide que Scozzone n'avait pas eu le temps de s'y mêler. « Merci, Pagolo, dit-elle, en essuyant les larmes que la frayeur lui avait mises aux yeux et en réprimant en même temps un léger sourire. « Merci, mon cher Pagolo, de l'honneur que vous consentez à me faire. Mais puisque c'est pour tout de bon maintenant que nous nous expliquons, écoutez-moi. Vous ne vouliez pas de moi tout à l'heure, maintenant c'est moi qui ne veux plus de vous. Je ne dis pas cela pour vous mortifier, Pagolo, mais je ne vous aime pas et je désire rester comme je suis. » Alors, dit Benvenuto avec le plus grand sang-froid, si tu ne veux pas de lui, Scozzone, et il va mourir. Mais, s'écria Catherine, puisque c'est moi qui refuse. Il va mourir, reprit Benvenuto, il ne sera pas dit qu'un homme m'aura outragé et que cet homme restera impuni. Es-tu prêt, Pagolo? Catherine, s'écria l'apprenti, Catherine, au nom du ciel, ayez pitié de moi. Catherine, je vous aime, Catherine, je vous aimerai toujours. Catherine, signez, Catherine, soyez ma femme, je vous en supplie, à genoux. « Allons, Scozzone, décide-toi vite, dit Cellini. Touché là, alors, c'est bien bizarre, et je ne m'y attendais guère, mais tant pis, je suis votre femme. et elle prit la plume et signa à son tour en femme respectueuse, comme cela doit être au-dessous de la signature de son mari.
« Merci, ma petite Catherine, merci !» s'écria Pagolo. « Tu verras comme je te rendrai heureuse !»«
Et s'il manque à ce serment, dit Benvenuto, partout où je serai, écris-moi, Scotson, et je viendrai en personne le lui rappeler. »
À ces mots, Cellini repoussa lentement, et les yeux fixés sur l'apprenti, son poignard au fourreau. Puis, prenant le contrat revêtu des deux signatures, il le plia proprement en quatre, le mit dans sa poche, et s'adressant à Pagolo avec cette ironie puissante qui le caractérisait,
« Et maintenant, ami Pagolo, dit-il, quoique Scotson et vous soyez bien et dûment mariés selon les hommes, vous ne l'êtes pas encore devant Dieu, et ce n'est que demain que l'Église sanctifiera votre union. Jusque-là, votre présence ici serait contraire à toutes les lois divines et humaines. Bonsoir, Pagolo. »
Pagolo devint pâle comme la mort, mais comme Benvenuto, d'un geste impératif, lui montrait la porte, il s'éloigna à reculons.
Puis, lorsque la porte fut refermée,
« Cellini, dit Catherine gaiement, tu me donnes un mari, mais tu me délivres de sa présence aujourd'hui, c'est toujours ça de gagner. Tu me devais bien ce dédommagement. »